Audiolib présente L'orpheline du temple de Victoria Mas, lu par Steve Drizen et Marie Dubled. Préface. Voici deux jours que la princesse s'en est allée du temple. C'est par ces mots que je découvris les lettres de mon père. Je crus d'abord que celles-ci m'avaient été destinées par erreur, qu'elles s'adressaient à une autre Marie Herbelin, qui elle aussi, depuis peu, pleurait devant une pierre tombale au milieu d'un cimetière. L'enveloppe mentionnait pourtant mon adresse. L'écriture m'était inconnue, tout comme le prénom de celle qui me faisait parvenir ses écrits. Une certaine Françoise, vivant en Provence, bien au fait de mon existence, tandis que j'ignorais parfaitement la sienne. Plusieurs jours me furent nécessaires pour admettre ce que j'avais su dès l'instant où j'avais fébrilement déplié ce courrier. Le déni est une bienveillance. Il préserve le cœur de bouleversements si soudains qu'il serait insoutenable sur l'instant. Noircissant ces pages, c'était bien l'écriture de mon père. Droite, propre, sans rature, semblable à la rigueur dont il fit preuve tout au long de sa vie. En parcourant ces phrases, c'était sa voix que je percevais, ou plus justement, son murmure. Jamais je ne l'entendis hausser le ton, pas plus que je ne l'entendis rire. Il fut un homme réservé et songeur, plus discret que tous les chats du voisinage, se faisant aussi rare dans le village que la lune en plein jour. Ses cheveux bruns et mi-longs étaient traversés par une mèche blanche qui prenait naissance dès les premières racines de son front, et ce signe distinctif semblait ajouter au mystère de sa personne. Ses mains larges et fortes, que l'on aurait spontanément attribuées à un forgeron, manipulaient pourtant les plus petites aiguilles de montre à gousset avec une dextérité étonnante. Consacrant toute sa vie à la mécanique du temps, il travailla dans son atelier jusqu'à son dernier souffle, son corps robuste courbé sur un vieux tabouret en bois, indifférent au tintamarre des pendules et des horloges, sourd au tic-tac des secondes et au timbre des heures, n'entendant même plus le clocher de l'église qui annonçait le souper. Il me serait aisé de poursuivre sur mon père. Combien de pages pourraient s'écrire sur le plus insaisissable parent? Cette préface, néanmoins, se limiterait à mentionner ses silences, son air perpétuellement taciturne, et les interrogations que cette mélancolie aggravée suscitait dans mon esprit de petite fille. Ce que je connais véritablement de lui, je le dois aujourd'hui à ses lettres. Adressées à sa tante entre 1795 et 1820, elles me permettent de dresser pour la première fois un résumé succinct mais complet de son parcours. Joseph Herbelin naquit à Fécamp, le 4 juillet 1775, sans avoir connu ses parents. Élevé à Paris par son oncle maternel, Charles Herbelin, médecin de si louable réputation qu'il fut appelé au chevet de Louis XV, et par son épouse, Céleste, il rejoignit les rangs de la garde nationale à l'âge de 16 ans. Vif, intelligent, émérite, il fut nommé en février 1794 gardien à la prison du Temple, où étaient alors retenus les derniers otages royaux. Louis-Charles et Marie-Thérèse, enfants des défunts Louis XVI et Marie-Antoinette, ainsi que Madame Élisabeth, sœur cadette du roi. Deux ans plus tard, soupçonné de sympathie royaliste et contraint de fuir le temple, Joseph Herbelin s'installa à La Roche-sur-Seine, un village du Vexin, où il mena dès lors une existence modeste de maître horloger, d'époux et de père. Sa vie, en apparence ordinaire, se distingua pourtant par des événements remarquables que relate sa correspondance. Conservé par la sœur de Céleste Herbelin, puis par plusieurs de ses nièces, celle-ci passa de main en main, de tiroir en coffret, avant de m'être enfin restituée par cette Françoise qui s'avéra être une cousine éloignée. Je laisse le lecteur imaginer les torrents d'émotions vives et contraires que j'éprouvais à la découverte de ses écrits. Sans doute connaissons-nous moins bien les vivants que les défunts. Sans doute faut-il attendre la mort de certains êtres chers pour véritablement les rencontrer. Les lettres ici rassemblées ne se contentent pas d'évoquer l'histoire de Joseph Herbelin. Au-delà du récit d'un seul individu, s'écrit le journal de tout un peuple en proie au tumulte et aux incertitudes du siècle révolutionnaire. Le narrateur est à la fois témoin et acteur, victime et bourreau, républicain puis indécis. Ses tourments racontent les traumatismes de son pays. Sa plume donne une voix à tous ceux que la révolution a désenchantés et rendus coupables.